soit démasqué, jugé.
Boulevard.
Et bon mardi, j'espère que ça va bien. Ben écoutez, 20 février, le mois de février qui est déjà terminé et qui se fait ressentir aujourd'hui. Tel l'hiver que l'on connaît au Québec. Moins 15 degrés, c'est ce qu'on a. Ça a été une nuit, somme toute, assez froide. Avez-vous parti un petit peu de foyer? On avait le droit, là, ces jours-ci. Mais ça a été l'hiver. Et les pistes de ski hier, c'était donc bien le fun de vous voir en profiter avec le soleil, avec la petite poudreuse qui est tombée quelques heures avant. Finir votre journée, justement, sur les pentes de ski. J'ai l'impression qu'on n'a pas bien rentabilisé nos passes cette année, mais peut-être que cette fin d'hiver va nous donner un long ski de printemps qui est aussi très agréable. Salut, salut! Les salutations commencent à entrer au 418-971-1021. Vous pouvez le faire, j'adore ça. J'aime vraiment savoir quand vous êtes là. Une petite routine peut-être à instaurer dans votre heure de 10 à 11. je vais vous répondre personnellement, dans les prochaines minutes. Sur Twitch aussi, twitch.tv/blvd/fm. C'est la manière de venir en studio avec moi et aussi jaser avec beaucoup d'auditeurs parce qu'il y a un chat qui est associé à Twitch. Vous n'avez pas besoin de vous créer de compte, ça ne coûte pas d'argent. Tapez juste twitch.tv/blvd/fm et c'est aussi simple que ça, on se rejoint. Aujourd'hui, exceptionnellement, on s'en va reparler à Frédéric Bérard, avocat. Parce qu'il est sorti dans l'actualité une nouvelle qui m'importe énormément. Cette nouvelle-là concerne les peines que l'on donne à certains criminels, aux agresseurs sexuels, des peines à la maison, donc prison à la maison pour un agresseur sur cinq. C'est 4 fois plus d'agresseurs sexuels qui ont obtenu une peine à la maison en 2023. Hausse très forte. Et c'est dû aux assouplissements permis par le fédéral avec la nouvelle loi C-5. Et on va aller en jaser parce que j'ai certaines questions bien précises à poser à un avocat et pourquoi pas prendre celui avec qui on parle à chaque semaine puis accepter de faire partie de leur CV 2 fois cette semaine. Aussi, bon, bien sûr, dans l'actualité, tout ce qui est guerre des stupéfiants, Maria Mourani qui s'est prononcée là-dessus en ayant un questionnement très intéressant sur le fait que ben, peut-être que ce qui se passe dans le crime organisé en ce moment, c'est un peu le reflet de ce qui se passe dans la société. Donc, les valeurs, les façons de se comporter, les limites qui ont baissé, les statuts de hiérarchie, de respect peut-être d'une certaine structure qui est tombée. Et ce qui se passe à Québec et à Montréal, en fait, c'est beaucoup plus petit que ce qui se passe en général dans le crime organisé, les gangs de rue, au total et à l'international. Il y a vraiment quelque chose d'important à aller explorer là-dedans. Et on va aller aussi jaser avec Benjamin Toubol, que vous connaissez, notre expert en fait en relations internationales, en fait doctorant aussi et enseignant, parce que il y a un point important qui a été apporté ce matin dans l'actualité par rapport à résister à la fatigue de la guerre. Parlons de la guerre en Ukraine contre la Russie, par exemple. Okay? On est déjà au-delà de 2 ans à être dans les combats, à essayer de se défendre, à essayer de s'armer. À quel moment est-ce qu'on est essoufflé? Qu'est-ce qu'on fait avec cette fatigue de la guerre quand, si on s'arrête, ben on perd automatiquement et on se fait envahir? À quel moment, psychologiquement ou encore dans notre situation géopolitique ou sociale, la fatigue doit être dépassée? Comment on le fait, ça? Ça va vraiment être intéressant d'aller jaser de tout ça avec Benjamin Toubol. Alors, je vous invite à aller vous couler un café, vous prendre une petite boisson chaude, quelque chose de bien réconfortant, de le fun, qui va vous aider à passer à travers votre travail aujourd'hui. Moi, je vais faire ma part jusqu'à 11 h, assurément. Dans vos oreilles, Watatatao, Slater et Fils à Boulevard 102.1. Je vais aller la découvrir avec vous.
Leur CV avec Pascal CV.
OK, c'est un sérieux mash-up entre la toune de Watatatao et une toune que vous connaissez très, très bien. On a ri tout le long. Il y a quelque chose d'effervescent de retourner dans notre adolescence avec ce générique d'une émission qu'on a tellement écoutée, puis une chanson qu'on écoutait aussi énormément. J'avais aucune idée que ça existait, puis maintenant, je suis rendue fan. À moins 15 degrés à l'extérieur, c'est le temps aussi de vous rappeler qu'une portion de l'autoroute 20 qui sera fermée complètement cette nuit à Lévis. Si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant, puis passez la nouvelle. Donc, le ministère des Transports qui annonce la fermeture complète de l'autoroute 20, c'est entre 3 h et 5 h du matin, mercredi 21 février, là, entre la route Lagueux et la route des Rivières. Ça, c'est dans l'ouest de Lévis. C'est pour les deux directions. Et précisément, là, c'est entre les sorties 305 et 311, à la hauteur des routes 171 et 116. Je vais vous dire, chaîne du nez avec tes indications. Tapez-le sur Google, vous allez voir, l'information est sortie. Mais on a des travaux sur les services publics à faire. Donc, période qui aura en fait un détour à effectuer là, par le chemin des Oliviers dans le secteur de Saint-Nicolas si jamais vous traversez sur la 20 entre 3h et 5h du matin. Et si vous le faites, dites-moi ce que vous faites dans la vie. Pour les auditeurs de leur CV, j'ai un concours maintenant. Je vous envoie à la lutte. Je sais que ça a fonctionné énormément hier comme concours et j'ai encore une paire de billets pour vous. Je vais faire un gagnant maintenant pour vous envoyer le 27 mars prochain à la All Elite Wrestling parce que ça s'arrête dans la ville de Québec. Vous allez voir les lutteurs de Dynamite, de Rampage. Ils s'affrontent au Centre Vidéotron. Entre autres, Chris Jericho, Kenny Omega, les Young Bucks, Hangman Page et plusieurs autres qui seront sur place. Et pour la toute première fois, il y aura l'assassin aérien Will Ospreay sur place. Donc, c'est à ne pas manquer. 27 mars prochain, ça s'en vient. Si vous ne gagnez pas vos billets dans cette heure CV, ben, s'il y en a à vendre encore. Mais dépêchez-vous parce que ça se vend très, très vite. C'est sur gestef.com et ticketmaster.ca. Présentation de Live Nation. On est très, très, très contents de s'associer avec eux et de vous offrir une paire de billets maintenant. Pour la gagner, c'est au 418-971-1021. Et dites-moi ce qu'on vient d'écouter. Générique de quelle émission? Hein? Quelle émission de notre adolescence? Le générique musical a fait partie de cette chanson qu'on vient d'écouter dans leur CV. Et au retour, Frédéric Bérard, restez là. On revient dans un instant.
Avec Pascal CV.
Je vous avais dit que c'est un des sujets qui m'intéressait le plus aujourd'hui dans l'actualité pour plusieurs raisons. Là, rien de personnel, on comprendra avec le sujet. Mais surtout sur tout ce qui est autour du droit là-dedans, autour de la justice là-dedans. Il y a beaucoup de plaintes hein, de quidam, de vous et moi, sur le système de justice, les délais en ce moment. Bien, des fois, on est bien découragé de voir que l'arrêt Jordan est plus utilisé que l'on pensait lorsqu'on a découvert, en fait, et implanté cet arrêt Jordan-là. Mais aujourd'hui, et on en parle dans plusieurs médias, on apprend qu'il y a 4 fois plus d'agresseurs sexuels qui ont obtenu une peine à la maison en 2023. Ça veut dire que la prison qu'ils devaient purger, ils l'ont fait à la maison. C'est une bonne hausse, là. C'est une hausse qui est due aux assouplissements permis par le fédéral avec la nouvelle loi C5. Et là, peut-être que vous saignez du nez quand je vous dis ça, mais on va aller justement parler avec quelqu'un qui connaît très bien le droit. D'habitude, on lui parle le lundi matin à chaque semaine et j'ai décidé d'abuser de sa présence dans l'émission. Et puisqu'il est généreux, il a accepté. L'avocat Frédéric Bérard est au bout du Zoom en direct du Salvador. Salut Frédéric.
Salut Pascal.
C'est drôle, là, ça fait longtemps qu'on s'est parlé, hier matin.
Oui, ça fait à peine 24 heures, à vrai dire.
Mais pourquoi?
Mais ça fait plaisir d'être en contact avec toi et avec la grande région de Québec, par définition.
2 fois plutôt qu'une. Tu as vu cette nouvelle-là, en fait. Ouais. C'est sûr que ça peut surprendre, parce qu'on se dit, voyons, est-ce qu'on est en train d'assouplir, justement, la crainte que certaines personnes ou criminels pourraient avoir, soit d'aller en prison permettre justement des assouplissements qui finalement n'ont pas vraiment de conséquences dans la vie de quelqu'un qui devrait en avoir par rapport à ses gestes. J'expliquais là, que 4 fois plus d'agresseurs sexuels qui ont pu s'en tirer avec une peine de prison à la maison en 2023, c'est quand même important comme nouvelle ce matin.
Oui, absolument. Écoute, moi je comprends le fait que les gens soient fâchés pour toutes sortes de raisons. Je pense, par contre, qu'il faut faire preuve aussi de quelques nuances, dans le sens où une peine de prison avec sursis, c'est sûr que c'est beaucoup moins compromettant qu'aller s'asseoir en prison pendant X années, on s'entend bien. Mais ça reste, et la Cour suprême le dit là, très clairement, là, dans un arrêt, l'arrêt Proulx au début des années 2000, ça reste une sentence quand même, là, dans l'optique où tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu as des conditions, tu ne peux pas sortir de chez toi comme ça te plaît non plus. Hein, il y a un agent de probation qui surveille. Bref, ce n'est pas la liberté complète. Évidemment, n'importe quel prisonnier va dire qu'il aime beaucoup mieux être chez soi qu'être à Bordeaux. Là, ça oui. va de soi. Mais reste qu'ils ne sont pas quand même dans un état de liberté complète. L'autre affaire, je pense qu'il faudrait dire, puis là-dessus, je pense que je rejoins une partie de la population qui est fâchée, c'est que les peines avec sursis, Je te dirais qu'on n'avait pas trop le choix du fait que les pénitenciers craquent. Hein. C'est un petit peu ça l'idée derrière ça, en disant aussi qu'il va y avoir de la réhabilitation, ça va être plus facile parce qu'on sait que la prison, c'est l'école du crime, particulièrement pour les plus jeunes, pour les jeunes adultes. C'est pour ça que les jeunes contrevenants, souvent, n'y vont pas parce qu'on ne veut pas justement les mettre en contact avec cette école du crime-là. Une fois qu'on a dit ça, par contre, en matière d'agression sexuelle, là, ça devient un autre enjeu. Parce que si la personne, par définition, reste chez elle, ben, il y a des chances de récidive qui sont quand même plus importantes. Tu vois, ce que j'essaie de dire, dans le
Oui.
fond, c'est que l'idée de la prison avec sursis, moi, je la comprends. Je ne te dis pas que je suis un fan absolu, puis qu'on se comprenne bien, là, ce n'est pas pour tous les crimes non plus. Hein. C'est pour les crimes de 2 ans et moins. Là, ce n'est pas carte blanche. Les juges exercent encore leur discrétion, leur jugement. Ce n'est pas rester chez vous, puis on n'en parle plus. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais donc, pour certains crimes, je comprends très bien. Pour d'autres, notamment, particulièrement, à vrai dire, les agressions sexuelles, ben là, c'est un peu compliqué, là, parce que évidemment qu'il peut y avoir des conditions disant tu ne peux pas entrer en contact avec, par exemple, ton ex-conjointe ou entre victimes de manière générale, mais est-ce qu'on ne tente pas le destin, en quelque sorte, en permettant, là, justement, cette espèce d'emprisonnement à la maison?
Ben oui, puis je lisais justement là-dessus, on parle pas nécessairement, t'sais, de bracelets aussi, dont on parlait beaucoup dans l'actualité il y a quelques années, là, les bracelets qui étaient posés aux jambes d'agresseurs qui avaient été condamnés et de victimes, en fait, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de rapprochement entre les deux, qu'on soit capable d'évaluer qui sont loin l'un de l'autre. Mais il y a aussi la portion de la victime là-dedans, d'imaginer cette victime-là peut-être être stressée au quotidien, de savoir que son agresseur, qui a été reconnu coupable, en fait, de ses gestes, se trouve à la maison. Je comprends que c'est prison à la maison avec sursis, mais est-ce qu'il y a vraiment toujours quelqu'un qui surveille cette personne-là 24 heures sur 24? C'est ça, là.
Non, évidemment pas. Donc, comme je t'ai dit, moi, sur le volet agression sexuelle, je crois que le législateur fédéral, parce que tu l'as bien expliqué d'entrée de jeu, là, c'est un amendement au code criminel, je pense que le législateur fédéral devrait revoir sa posture en disant, je veux pas aller, passe-moi la métaphore, là, regarrocher le loup là où le crime a été commis, ou en tout cas où on présume qu'il y a plus de chances qu'en... Bon, bref, tu vois, genre, moi, je pense et avoir très facilement un amendement là-dessus. Puis ce qui est le plus désolant, c'est qu'on avait averti le législateur fédéral avant l'adoption de ces cinq, notamment Québec, mais François Legault l'avait prédit d'ailleurs. Bon, le fédéral a fait comme d'habitude quand Legault demande quelque chose, c'est-à-dire oui, il parle toujours, ça nous intéresse beaucoup.
Qu'est-ce que Legault
Mais
avait demandé précisément?
Legault avait justement averti, avait demandé précisément, je ne sais pas, je n'ai pas vu la lettre, mais avait demandé à ce que le législateur fédéral... Il y a le mollo là, avec les emprisonnements avec sursis, probablement parce qu'il avait en tête, en tout cas, je ne sais pas si lui avait en tête, mais probablement que le ministère de la Justice l'avait avisé, que ça pourrait être un enjeu par définition là, en matière d'agression sexuelle.
Pour toi, est-ce que c'est y aller mollo, un condamné sur cinq?
Ben, écoute,
Sur quatre, pardon, même.
1 sur 4, c'est 25 %. Moi, je vais dire quelque chose de vraiment pas populaire, OK?
OK,
Puis
vas-y.
c'est peut-être pour ça que je chronique chez toi. Pour plaider, je fais ça dans la vie, là, en partie. Moi, j'ai confiance au jugement des juges. C'est la justice des hommes, des femmes. Donc, par définition, ça ne sera jamais parfait. Il va toujours y avoir des erreurs. Il va toujours y avoir, par définition, des mauvaises décisions. Mais au final, pour l'avoir vécu, moi je ne suis pas criminaliste, là, je suis plutôt constitutionnaliste, mais je fais quand même affaire avec des juges là, souvent. Ce n'est pas des tatas, puis ils ont des règles à suivre. Là, les règles ont été très assouplies là, en matière d'emprisonnement avec sursis, on le sait, mais il reste quand même qu'ils évaluent si la personne peut aller demeurer chez elle ou pas. Est-ce qu'elle va, évidemment.
Représenter un risque,
Voilà,
ouais.
évidemment, puis il ne faut pas oublier qu'il y a des rapports d'experts, hein, par exemple. Justement des agents de probation, des psychiatres, des psychologues, et ainsi de suite. En d'autres termes, c'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un free pass en disant oh, ben, le système de justice a abandonné, restez chez vous, puis c'est moins de trouble. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Évidemment, 1 sur 4, ça choque l'esprit parce qu'on se dit, OK, ouais, mais c'est incroyable, 25 %. Mais je te dirais que de ce 25 %-là, il y a probablement un très, très, très haut taux, sinon un taux quasi parfait de cas où on n'entendra jamais parler
De
dans les médias.
l'individu.
Vraiment,
Ouais.
ça prend un cas qui déraille, par exemple, les libérations conditionnelles, où là, on se dit le système l'a échappé et les médias, puis on en fait partie, vont en parler pendant X temps, puis c'est normal, c'est notre job. Mais reste que je le répète, c'est la justice des hommes et des femmes. Ça ne pourra pas être parfait. Et quel est le gain positif avec l'emprisonnement avec sursis? C'est qu'on donne une certaine souplesse au système judiciaire pour dire, lui, là, ce ticu-là, il n'a pas d'affaire à aller en prison. S'il va, ça va être le bordel. Ça va être encore, il va fréquenter l'école du crime. Il a exprimé ses remords, je le crois, parce qu'il a témoigné devant moi. Il a clairement expliqué que si, ça. J'évalue avec des experts le risque de récidive, comme tu disais. Je conclus que non. Donc, tu vois, moi, je comprends, par contre, qu'en matière d'agression sexuelle, ça, c'est probablement quelque chose auquel le législateur fédéral n'a pas pensé. C'est une dynamique qui est différente.
Oui, puis de ce qu'on parle ce matin, c'est uniquement pour les cas d'agression sexuelle. 2022, c'est 27 des 530 peines données par des juges qui étaient prison à la maison. La différence, elle est énorme avec l'an dernier, 2023, 112 sur 569. Ça reste qu'il y a beaucoup de causes, hein, quand même, pour agression sexuelle, on s'entend, là, quand tu regardes ça. Mais je me demandais, tu disais, bon, des fois, ça va être un jugement qui va être fait en conséquence aussi de ne pas envoyer quelqu'un aller apprendre à être un meilleur criminel en prison. On va évaluer toutes sortes de choses, son degré de récidive, sa dangerosité aussi en société. Mais est-ce que c'est également pour réussir à condamner plus rapidement et pas que ça tombe en deux cracks avec l'arrêt Jordan? Est-ce que la question qui tue à la Guy Lepage, là, c'est est-ce que si on ne va pas là en ce moment avec la nouvelle loi C-5, de cette prison à la maison pour certains criminels en matière d'agression sexuelle, ben on en échappe et tout simplement on les remet en liberté sans avoir de surveillance faite sur ces criminels-là?
C'est vraiment c'est une question à 1 million, je te dirais. Elle est vraiment très, très, très pertinente, cette question-là. Mais je répondrai par un peu oui puis un peu non. Puis
on n'a pas de certitude.
Un peu non parce que ça prend quand même une condamnation. Hein. Là, on parle juste de la sentence, c'est-à-dire tu vas rester à la maison ou tu vas aller en prison. Et pour qu'il y ait sentence, nécessairement, il faut qu'il y ait eu un processus sur la culpabilité de l'individu. Donc, sur ce volet-là, je te répondrais non, parce que Jordan te parle du moment du début de l'accusation jusqu'au moment de la condamnation. Donc, à cet effet-là, ça ne change pas. Par contre, là où je pense que tu t'es pas positionné, là, mais où je répondrais oui à ta question, c'est dans l'optique où tu as l'effet dissuasif en disant, OK, l'avocat va dire à son client, regarde, fais pas le fou, là. Au lieu d'aller faire toute cette espèce de processus-là, tu vas te faire ramasser. La preuve que ramasser la couronne est beaucoup trop forte. Par exemple, t'envoyer un texto, je dis n'importe quoi, mais t'envoyer un texto à la victime disant, Je m'excuse, j'aurais pas dû t'agresser. T'sais, on s'entend bien là, que c'est la fin des haricots, là, c'est terminé pour toi. Alors, au lieu d'aller faire le clown pendant X temps devant un juge, plaide donc coupable, exprime tes remords, sachant qu'on demandera l'emprisonnement avec sursis, peut-être avec une plus grande chance de succès, du fait justement que tu as refusé de faire toute l'espèce de sparage là, d'un procès. Oh.
En terminant, Frédéric Bérard, sur le sujet, cette prison avec sursis, là, cette prison à la maison surveillée, quels sont les barèmes, là, les balises générales de cet emprisonnement à la maison-là? Est-ce qu'elles sont pas mal toutes pareilles ou elles sont différentes d'individu en individu?
J'ai pas de statistiques, je veux pas te dire n'importe quoi, mais ce que je sais par contre, et ça répond un peu à la question, c'est qu'il y a beaucoup de cas par cas. Oui, puis c'est ça aussi que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Quand je parle de la discrétion du juge, bien, dans bien des cas, puis c'est comme ça pour un paquet de dossiers, là, pas juste en matière d'agression sexuelle, le juge va dire, OK, en quoi ce gars-là pourrait ne pas être un danger pour la suite des choses? Bref, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Tu n'as pas le droit d'entrer en contact avec la victime, tu n'as pas le droit de sortir de chez toi après 18 heures, tu n'as pas le droit de, je ne sais pas moi, de prendre ton char, je dis n'importe quoi. On va essayer de limiter au maximum les risques de récidive. On a confiance que l'accusé, en fait, que le détenu dans ce cas-ci va respecter ses conditions. Il ne faut pas oublier, hein, c'est pas pour rien qu'on appelle ça prison avec sursis. Sursis étant le terme payant ici, dans l'optique où si tu brises tes conditions, mon petit pit, ça ne sera pas très long que tu vas y aller là, en dedans. Là, tu comprends-tu?
Oui, on va t'envoyer.
Il ne faut pas perdre ça de vue non plus. Donc, je comprends que les chiffres ont l'air sidérants. Mais au final, il faudra attendre de voir peut-être dans quelques années. J'ai l'impression, moi, que les risques de récidive vont être très, très faibles. Tu vas me dire qu'une récidive, c'est déjà trop, je comprends bien, mais ces gars-là ne vont pas en prison pour 20 ans non plus. Hein. Ils sortent après 2 ans, le risque de récidive va être encore là par la force des choses.
Un gros merci, Frédéric, d'avoir été avec nous 2 jours de suite dans leur CV. Frédéric, qui est avocat, auteur, chroniqueur et qui est au Salvador en ce moment pour des reportages sur les droits humains. On te reparle la semaine prochaine?
Avec grand plaisir.
Merci, salut. Oui, bien, c'était éclairant quand même comme propos de la part de Frédéric. Moi, j'aime ça aller parler à des gens qui travaillent dans le domaine puis qui vont pouvoir un peu nous en jaser. J'ajoute quand même à la conversation une information parce que cette hausse-là d'emprisonnement à la maison, là, de prison à la maison, d'emprisonnement avec sursis, pour les agresseurs sexuels dans la dernière année, on dit 4 fois plus d'agresseurs sexuels qui ont pu s'en tirer avec une peine de prison à la maison en 2023, va également avec l'effet de l'entrée en vigueur de la loi dont je vous parlais, là, cette loi qu'on appelle la C5, en fait, et qui autorise désormais la prison avec sursis pour plusieurs infractions possibles et des infractions qui sont passées de 10 ans d'emprisonnement, dont certaines qui sont liées aux drogues, aux armes à feu, mais aussi, comme dans ce cas-ci, aux agressions sexuelles. C'est sûr que tout le monde se prononce un peu là-dessus. Tu as aussi les centres d'aide aux victimes d'actes criminels qui s'inquiètent, en fait, du stress que ça peut engendrer chez ces victimes-là, en fait. Je pense qu'on a tous une opinion par rapport à ça, mais les gens qui le vivent, en fait, ont certainement au moins le vécu là-dedans. 418-971-1021. Si vous voulez ajouter quelque chose, vous savez, c'est une voie directe pour communiquer avec moi. Robin Desbois d'Émile Bilodeau à Boulevard 102.1. On revient dans un instant.
Quand je réfléchis, j'ai 6 cerveaux, en fait.
L'heure CV avec Pascal CV.
Boulevard 102.1.
Oh, vous aviez beaucoup de choses à dire sur le dernier sujet. Ouais, c'est sûr que vous avez nommé aussi des gens que vous ne voulez absolument pas avec prison, avec sursis, en fait. Vous avez nommé des gens que vous ne voulez absolument pas voir à la maison en ce moment. Vous m'avez fait rire. Hey, on vient de terminer un point de presse important, en fait. On était en direct de l'Assemblée nationale avec plein de journalistes pour un point de presse sur les demandeurs d'asile au Québec. Là, la facture s'élève à 1 milliard de dollars. C'est ce qu'on a appris, avec plus de la moitié des demandeurs d'asile sur le territoire du Québec, bien, on a dû fournir là, des services d'une valeur de plus d'un milliard de dollars en 3 ans pour la moitié des demandeurs d'asile ici sur le territoire au Québec, comme je vous disais. Notamment, on a ouvert des classes d'accueil. On voulait offrir de l'aide aussi de dernier recours. Et à la mi-janvier, il y a le premier ministre François Legault qui a écrit à son homologue fédéral pour prévenir que le Québec avait de la misère à répondre à la demande. Et un mois plus tard, la capacité était dépassée déjà. Alors, c'est ce qu'on a appris avec la ministre de l'Immigration en point de presse ce matin. C'est important, en fait, d'en jaser. C'était un des points cruciaux que le gouvernement de la CAQ voulait mener, en bataille là, pour cette année, avec plusieurs autres quand même. Il était tombé un peu entre deux craques, là, avec tout ce qui est grève au scolaire, tout ce qui est remaniement au niveau de la santé. Mais là, ce qu'on dit, c'est qu'il faut soulager nos services publics dans les plus brefs délais. Et en fait, Christine Fréchette a fait un communiqué aussi dans les dernières heures et on dit que le fédéral, il faut vraiment qu'il agisse pour freiner l'arrivée massive de demandeurs d'asile parce qu'on a vraiment atteint nos limites et on a un point de rupture. Il donne des chiffres aussi dans le point de presse. Pour l'année 2023, le coût du panier de services pour les 160, puis je vais être très précise, là, les 160 651 demandeurs d'asile sur le territoire québécois, c'est 576,9 millions de dollars. C'est une facture qui s'ajoute à celle de 470 millions de dollars qui est réclamée à Ottawa pour les 2 années précédentes. Donc, on n'a plus d'argent pour ce genre de services-là et on n'a comme pas le choix de les offrir aussi. On ne va pas laisser des gens être dans l'eau chaude, mais quand même, c'est beaucoup d'argent. Puis là, on faisait des parallèles avec les services fournis. On disait que Québec affirme compter 1237 classes d'accueil, ce qui représente l'équivalent de près de 52 écoles primaires. Et on dit, c'est pas à nous, là, au gouvernement du Québec, ni aux contribuables québécois de payer cette facture-là. C'est ce que le gouvernement Legault affirme. On dit, tout ce qui a trait à l'aide de dernier recours, le total des sommes là, pour les demandeurs d'asile est passé de 163 millions de dollars à environ 370 millions de dollars. Et une augmentation de 127% entre 2022 et 2023. Toujours difficile de se positionner dans ce genre de nouvelles-là parce qu'on se dit, On veut aider des gens qui sont dans le pétrin, qui n'ont vraiment pas la même qualité de vie, mais est-ce qu'on est capable de bien le faire? Puis là, on parle juste au niveau finance, mais est-ce qu'on est capable de bien les loger, de les faire contribuer à la société et pas simplement pour nous, mais pour eux aussi, pour leur donner une carte de visite intéressante, leur donner, en fait, une qualité de vie aussi qui va avoir valu la peine d'avoir quitté un pays et autre. Donc, conférence de presse des ministres de l'Immigration, de l'Éducation, de la solidarité sociale et de la langue française, qui est encore en cours au moment où l'on se parle du côté de l'Assemblée nationale. Très intéressant aussi de voir tous ces ministères-là ensemble pour le dossier. C'est plus ou moins rare qu'on voit ça en conférence de presse, là, tous les acteurs importants de ce genre de dossier être ensemble et de communiquer ensemble, mais c'est un essentiel là, au moment où l'on se parle, assurément, puis je trouve que c'est une très bonne façon de faire les choses et qu'il y aura certainement du bon contenu qui va sortir de la période des questions des journalistes qui devrait avoir lieu dans les prochains instants. Gamme Bouchard et Remède à Boulevard 102.1.
CV avec Pascal CV.
En ce mardi 20 février, ouais, ben c'est l'hiver à l'extérieur, fait pas froid, fait frette, mais c'est correct, on en profite. Il y a eu un peu de neige aussi dans les dernières heures. C'est moins 15 degrés dans la capitale nationale. Moins 8, c'est le maximum aujourd'hui et c'est du soleil partout. Je vous rappelle qu'il y a une partie de l'autoroute qui sera fermée là, pour un petit segment de la nuit, en fait, entre 3 heures du matin et 5 heures du matin. C'est sur la 20 à Lévis. Je ne suis pas sûre qu'il y a énormément de gens qui vont avoir à faire le petit détour prévu, mais sachez là, que de Lagueux à peut-être 3-4 sorties plus loin, ce sera fermé dans les deux directions et on va vous amener justement à passer par un autre endroit. Donc, ce sera complètement fermé, mais avec un détour accessible. Ce matin, dans l'actualité, on parle de ce qu'on appelle la guerre en Ukraine et en Russie, mais d'une autre manière. Puis le sujet est beaucoup plus large, en fait. C'est intéressant d'aller voir à quel moment, en tant que peuple, on est fatigué de cette guerre-là. À travers le temps, à travers l'histoire, il y en a eu des guerres qui se sont échelonnées sur plusieurs années. Des fois, c'est des manques de ressources, autant humaines que plutôt matérielles. Parfois, c'est une fatigue d'être toujours sur le qui-vive. Parfois, c'est une fatigue de stratégie. Parfois, c'est une fatigue d'avoir perdu certains combats, certains territoires. Parfois, c'est une fatigue même de victoire. Mais la fatigue en temps de guerre est un sujet hautement intéressant. Puis on va aller aborder tout ça avec Benjamin Toubol, notre expert doctorant au département de sciences politiques à la Faculté des sciences sociales à l'Université Laval. Il est en plein dans les relations internationales et dans toutes les violences politiques. Bonjour, Benjamin.
Bonjour, Pascal.
Merci de nous accorder cette entrevue-là ce matin. La fatigue en temps de guerre, qu'est-ce que ça veut dire, Benjamin?
Ben, la fatigue en temps de guerre, ça veut dire que c'est sur deux points. Le premier point, c'est sur au niveau des opérations militaires. C'est en fait des lacunes dans les ressources, d'hommes et de munitions. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est une fatigue d'un point de vue de l'opinion internationale. Au début de la guerre, on avait un bloc, mine de rien, qui a commencé à se former avec les pays de l'Europe et des États-Unis. En fait, les pays qui constituent l'OTAN, donc cette organisation qui s'était construite pour faire face à l'Empire soviétique. Il y a eu cette fois un élan en fait de solidarité de ces pays-là, de ces populations-là envers les populations ukrainiennes et en fait envers pour l'Ukraine qui était perçue et réellement comme un pays qui perdait ses territoires au profit de la Russie. Et cette fatigue-là, elle se ressent et c'est finalement la fatigue la plus risquée et la plus dangereuse, c'est la fatigue de cette opinion internationale qui commence à se lasser de voir ces gouvernements concentrer leurs efforts militaires pour un pays aussi... Mine de rien, c'est aussi lointain, si on parle d'un point de vue, d'une perspective canadienne, un pays aussi lointain que l'Ukraine, et en fait, de voir ce pays-là envoyer des armes, envoyer de l'argent, c'est cette lassitude-là qui peut poser problème.
Tu veux dire qu'un pays, par exemple, qui aide dans la situation de guerre peut cette année, justement, d'envoyer beaucoup de munitions, d'armement, de soutien aussi politique à travers le monde, de se concentrer sur un enjeu qui n'est pas nécessairement le sien, mais qui est plutôt aidant. C'est cette fatigue-là aussi, plus politique, qui est importante, que tu exploites ce matin?
Et voilà, en fait, c'est tout le problème de se positionner en tant que quelle est notre position, que ce soit le Canada ou d'autres pays de l'OTAN, quelle est notre position par rapport à la Russie. Est-ce qu'on est des adversaires directs? Est-ce qu'on est des co-belligérants, c'est-à-dire co-belligérants qui prenons part à la guerre avec l'allié qui est l'Ukraine contre la Russie? Et en fait, l'OTAN en tant qu'organisation internationale, s'est toujours positionnée en tant que co-belligérante, mais les pays qui la composent ne l'ont pas fait. Ces pays-là ont dit « nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, nous aidons l'Ukraine ». Alors évidemment, on perçoit toute la nuance diplomatique qu'il y a derrière, mais c'est vrai qu'on voit depuis un certain temps des éléments qui ne sont pas forcément des éléments populistes d'extrême gauche ou d'extrême droite, hein, mais des questions légitimes qui se posent quant à la poursuite du soutien militaire et financier qu'on doit apporter à l'Ukraine. Malheureusement, en Ukraine, quand on voit les entretiens que les journalistes ont avec les soldats, eux, en fait, voient cette différence-là. Ils voient que sur les réseaux sociaux, il y a une lassitude. Il y a, en fait, une lassitude des gouvernements étrangers qui alimentent le jeu de la Russie. La Russie qui, il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours, a dit de toute façon les pays occidentaux vont se lasser de l'Ukraine et ça va légitimer en fait l'action de la Russie en Ukraine. Donc véritablement, s'il y a une lassitude de l'opinion internationale, il y a une lassitude dans le soutien de la guerre, même si des pays comme la France ont signé une alliance de défense militaire de 3 ans avec l'Ukraine.
Est-ce qu'on voyait ça dans le temps, dans d'autres guerres, Benjamin, lassitude en fait à l'international ou sur les opinions, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant nous avons. Est-ce que ça jouait autant auparavant dans les guerres qu'on a connues?
Si on remonte à pas très longtemps, mais à la guerre en Syrie, pendant très longtemps, les opinions dans les pays occidentaux se sont alignées derrière les oppositions laïques et modérées à Bachar al-Assad, qui était en Syrie. Alors là, ce n'était pas un pays qui envahissait un autre pays, mais c'était en fait un état de guerre civile avec des cas avérés de violation des droits humains. Et pendant longtemps, l'opinion internationale, que ce soit en Europe ou au Canada ou aux États-Unis, disait « nous nous rangeons toujours derrière l'opposition à Bachar al-Assad », mais il se trouve que, au bout de un certain nombre d'années, ce soutien s'est en fait effrité. Et en s'effritant, il a entraîné avec lui l'opposition à Bachar al-Assad. Donc en fait, les réseaux sociaux existaient déjà, mais je dirais, tu as tout à fait raison, les réseaux sociaux amplifient cet élément-là de soutien. Et on voit surtout des cas de fake news qui apparaissent et qui sont alimentés par des bots, c'est-à-dire par des trolls, ce qu'on appelle des usines à trolls, c'est donc des utilisateurs payés par le Kremlin pour alimenter des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Tout ça contribue en fait à alimenter cette lassitude-là, cette diffusion de fausses informations et donc un déséquilibre sur les territoires, sur le théâtre d'opération en Ukraine, bien que l'armée ukrainienne est encore très bien armée. On a plusieurs pays baltes et scandinaves qui continuent à alimenter en armes l'armée ukrainienne. La France, je l'ai dit, soutient militairement et a signé un accord de défense. Donc, sur le théâtre d'opération, c'est encore, ça tient, même si l'armée ukrainienne a perdu a perdu plusieurs villages à l'est de l'Ukraine ce week-end.
Dis-nous, Benjamin, comme citoyen, mettons, de l'autre côté de l'océan, on en parle aujourd'hui dans l'émission ensemble, mais au quotidien, on a notre travail, on a notre famille, on a nos dépenses, on a l'épicerie à faire, l'organisation. Puis il y a des gens qui se sont tannés, justement, des nouvelles un peu plus négatives et les guerres en font partie. De ne plus accorder d'attention à ce genre d'informations là, dans notre petite vie, puis je vais le dire comme ça parce que c'est notre petite vie quotidienne, puis c'est vraiment pas un jugement ou rien, mais est-ce que ça peut nuire aussi à une guerre à l'international, de faire en sorte que les citoyens outre-mer soient plutôt, comment dire, ne sont plus retournés ou curieux face à ce qui se passe justement dans certains lopins de terre à l'international?
Mais voilà, c'est ça, en fait, chacun, et c'est normal, chacun a ses propres problèmes individuels et chaque, on ne demande pas, ce n'est pas le rôle de tous les citoyens de se ranger derrière une cause et d'y penser 24 heures sur 24.
Mais au début, tout le monde se renseignait, tout le monde en voulait de l'information.
Mais voilà, ça c'est un petit peu un effet de zapping, c'est-à-dire que le problème dans les relations internationales, ce qui en fait un domaine extrêmement... intéressant, mais aussi dramatique, c'est qu'un événement apparaît en chasse un autre. On parlait de l'Ukraine et la guerre en Ukraine et qu'elle faisait toutes les grandes lignes des médias jusqu'à la guerre à Gaza. La guerre à Gaza a fait toute la ligne des médias jusqu'à d'autres considérations politiques. Donc c'est vrai qu'une information arrive en chasse une autre, et c'est un petit peu, malheureusement, dans un monde qui est abreuvé d'informations constantes, on en vient oublier peut-être l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi ? C'est que, considérant l'Ukraine, c'est vrai que, on va dire, la population générale, alors j'ai pas de sondage en tête, hein, mais la population générale, effectivement, au vu de l'inflation, au vu de la cherté de la vie, au vu des problématiques interne, que ce soit au Québec ou autre part dans le monde, pour n'importe quel citoyen et citoyenne, c'est vrai que l'Ukraine est reléguée à un rang secondaire, parce que ça n'influence pas, alors qu'on aurait tort de croire que ça n'influence pas la politique interne, parce que ce qu'on a vu, c'est que la cherté des denrées alimentaires, comme le blé par exemple, la guerre a eu un impact direct sur les prix des denrées alimentaires, comme le blé.
Sur nos tablettes à nous.
Sur nos tablettes à nous. Et donc, effectivement, l'inflation, qui est en fait un élément qui englobe plusieurs facteurs, mais un des facteurs importants, c'est cette guerre en Ukraine. Et si, effectivement, cette guerre en Ukraine continue, les denrées alimentaires vont continuer la nourriture va continuer à monter, le prix va continuer à monter. Mais surtout, si c'est la Russie, il y a une autre considération. Est-ce que nous sommes prêts à vivre dans un monde où des pays souverains envahissent d'autres pays souverains sur un territoire comme l'Europe? Alors évidemment, partout dans le monde, mais ce que je veux dire, c'est qu'en Europe, les Européens avaient perdu l'habitude de ce genre de guerre. C'était vraiment un épisode guerrier comme il n'y en a pas eu en Europe depuis 1945.
Oui, oui.
Est-ce que nous sommes prêts donc à retourner dans un monde où, par exemple, la Russie décide d'envahir un pays pour alimenter son roman national, pour alimenter ses perspectives impérialistes, et où les grandes organisations comme l'OTAN, par exemple, qui se targuent d'être une organisation un peu très solide, finalement perdraient? Est-ce que nous sommes prêts à vivre dans ce monde-là?
Ah, c'est intéressant, ça. Puis, bon, autant peut-être l'Ukraine est fatiguée sous plusieurs pans, le Canada l'est aussi. On l'a abordé en début d'entrevue ensemble, Benjamin.
Oui.
La Défense nationale canadienne a annoncé hier l'envoi de 800 drones en Ukraine.
Oui.
Ça a coûté 95 millions de dollars. Ça représente vraiment juste une goutte d'eau dans l'océan, dans les besoins d'armement, on s'entend, pour des sommes faramineuses, pour une entraide qui, au bout du compte, est-ce que ça
Même
va nous servir ou pas?
Ouais.
Puis notre sujet aujourd'hui, c'était vraiment la fatigue en temps de guerre. Le seul qui semble pas fatigué, en fait, c'est Vladimir Poutine, là. Et même peut-être qu'il se sert de tout ça pour avoir une victoire sur une guerre d'usure. Il l'a déclenché, il se dit « je vais me battre jusqu'à la toute fin », puis un jour, ils vont se fatiguer. Qu'est-ce que ça peut causer, ça, comme problématique? Parce que là, la Russie gagne du terrain. Il y a comme eu un petit revirement de situation dans les dernières semaines. Là, Vladimir Poutine est revenu un peu plus en force. Il y a eu la déclaration de Trump récemment en disant « moi, je comprendrais et j'appuierais un Vladimir Poutine à la tête de la Russie à envahir les pays de l'OTAN qui ne payent pas leur quote-part ». Finalement, hier, il revenait en disant « bon, Vladimir Poutine ne devrait pas exister parce que, pas nécessairement dans ces mots-là, mais en voulant dire, il était contre Vladimir Poutine hier dans ses déclarations en disant que ça avait des impacts très importants sur les États-Unis, en fait, sa présence dans le monde et sa façon de gérer ce qui est négatif pour les États-Unis. Donc, changement de discours aussi à l'international. Cette fatigue-là, pourrais-tu entraîner une défaite au-delà de les techniques de combat, au-delà de tout ce qui est soldats en Ukraine, au-delà de ce qui est aide à l'international? Est-ce que la fatigue pourrait mener à la défaite de l'Ukraine et finalement que tout a été fait et défendu pour rien, Benjamin?
Alors, la réponse rapide, elle est oui. La réponse un petit peu plus longue, c'est qu'en fait, on en revient à ce qu'on disait au tout début de cette guerre. C'est d'abord et avant tout une guerre de l'information. Et On ne sait pas comment les Russes vivent. On sait qu'il y a eu un embargo, on sait qu'il y a des blocus sur plusieurs ressources en Russie. Vivre en Russie, c'est très compliqué pour la classe moyenne en Russie aujourd'hui. Maintenant, c'est une guerre de l'information parce que la propagande tourne à plein régime. La propagande de Poutine, c'est de dire, regardez, nous n'avons jamais dévié de notre objectif. Nous avons dit que les pays européens et que l'OTAN s'affaiblirait, ils s'affaiblissent et nous gagnons du terrain en Ukraine. Ça, c'est et on parlait des réseaux sociaux, c'est amplifié par les réseaux sociaux. Maintenant, évidemment, tout ça, mais de l'autre côté, dans toutes les guerres, il y a un degré de propagande. Donc, il faut prendre en compte que Vladimir Poutine est très au courant que les pays, les populations des pays occidentaux ne sont pas forcément enclins à une guerre qui se prolongerait. La guerre, ça ne fait pas partie d'un point de vue même canadien. La guerre ne fait pas partie du roman national canadien. Voilà, le Canada n'a jamais été... dans une histoire proche, n'a jamais été envahi. Donc, il sait très bien que c'est des éléments-là qui, à un moment donné, vont pousser une certaine partie de la population à se retourner contre les gouvernants en disant, bon, il faut faire quelque chose, on dépense trop d'argent, on dépense trop de ressources et on oublie les ressources pour les citoyens. Et ce qui n'est pas le cas, encore une fois, on a parlé des drones, mais si le prix paraît faramineux, ça ne représente pas une grande partie du PIB au Canada. Mais voilà, c'est une guerre de l'information et de la propagande. Et Vladimir Poutine sait très bien qu'il peut jouer là-dessus pour influencer cette opinion et donc faire perdre la guerre à l'Ukraine. Et on aurait un cas comme en 1939, le cas de Munich, où des pays européens se retrouvent à dire, à l'époque c'était la Tchécoslovaquie, mais se retrouvent à dire à un autre pays européen, regardez, pour la paix, céder un petit peu de territoire. Et c'est exactement ce à quoi s'attend Poutine dans son cas.
Oh, merci beaucoup, Benjamin Toubol, oui, pour nous faire comprendre tout cet enjeu de fatigue en guerre, mais également pour peut-être nous prédire ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Ça reste extrêmement intéressant. Benjamin Toubol, doctorant au département de sciences politiques, faculté des sciences sociales, enseignant aussi, expert en relations internationales. On se reparle bientôt. Une très bonne journée à toi.
À toi aussi.
Merci. Alors, bien complexe cette situation-là, mais tel qu'il l'indiquait, Benjamin, probablement que ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, c'est de dire, bon, céder une partie du territoire parce que ça ne cesse plus. On n'est plus capable également de rendre ce qu'on doit rendre en tant que pays alliés ou encore pays de l'OTAN. Et à l'international, bon, on sait qu'on a nos propres enjeux, autant politiques, économiques. Peut-être aussi que ça peut jouer sur une pression quotidienne sur les citoyens. Bien que vous croyez que c'est très, très loin au quotidien, bien, ça a des impacts, comme il expliquait aussi sur le prix de notre épicerie, cette guerre-là. Russie-Ukraine et Vladimir Poutine n'est pas prêt de flancher. Il n'a pas la personnalité pour non plus. Et c'est tout pour leur CV. Merci beaucoup d'avoir été là dans un instant. Marceau, le midi, Yannick sera là, Tom Gauthier également. Puis à surveiller aujourd'hui tout ce qui est le cas de Marc-André Grenon. Est-ce que le juge en soi, avec les directives du jury, seront capables de décider sur quel chef d'accusation ils vont reconnaître coupable Marc-André Grenon? Meurtre prémédité, meurtre au deuxième degré. C'est aujourd'hui que ça joue, entre autres. Merci d'avoir choisi les ondes de Boulevard 102.1. À tout de suite.